Bienvenue sur Lumpen Station. On est au KBCB, le Studio Low, dans notre studio pendant toute l'année 2024. On n'est pas en direct et on est sans public. Je suis avec Julien Berbera et on prend l'occasion d'avoir ce studio pour faire des discussions autour de musées du futur, des collections. Il est là pour, quelque part, mettre l'église au milieu du village, j'ai envie de dire, ou le point sur les i. On va discuter assez librement sur des questions liées à la pratique du musée. Je vais le laisser aussi présenter lui-même sa pratique universitaire. Il a fait un mémoire sur des questions liées au musée. Donc, on va commencer avec cet premier épisode. Salut Julien, comment ça va ?
Salut Andrea.
Alors, tu vois, je n'ai pas voulu dire exactement ce dont tu t'occupes, parce que j'aime toujours laisser les invités le faire avec leurs mots, et aussi parce que c'est beaucoup plus précis. Donc, de quoi tu t'occupes ?
Merci Andrea. Merci pour l'invitation. Essayer de mettre les points sur les i, je ne sais pas, ou l'église au milieu du village. Je crois que je vais en tout cas essayer de parler de gens qui essayent de faire ça. Et quelle i et quelle église sont les plus intéressantes pour moi ? Je crois que c'est comme ça plutôt qu'on pourrait le dire. Donc peut-être que ce que je peux dire, c'est que moi j'ai un background en art visuel. J'ai fait... La aide à Genève, c'est de là qu'on se connaît, hein, notamment. Et ensuite, progressivement... En fait, j'ai toujours eu dans ma pratique artistique un goût pour les questions de critique institutionnelle ou en tout cas de se poser la question de la manière dont un musée crée des conditions, un musée ou un centre d'art crée des conditions d'existence à la fois pour les œuvres et à la fois pour les artistes. Donc c'est quelque chose qui traversait ma pratique comme artiste. Et puis maintenant, à travers mes études en muséologie et mes intérêts disons les champs de recherche que j'essaie d'explorer en tant que muséologue, donc j'essaie de continuer ça et essayer d'élargir la question du musée aussi uniquement, disons quitter purement le musée d'art ou le centre d'art pour parler peut-être davantage du musée en général, parce que je crois qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler, mais je crois que il y a des choses intéressantes qui se passent au sein du musée et peut-être que le centre d'art et le musée, et ça je le pose là comme ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, peut-être que le centre d'art ou le musée ne sont plus les lieux aussi subversifs et intéressants qu'ils étaient, et peut-être qu'il faut aller dans d'autres types de musées pour chercher des initiatives qui mériteraient d'être relayées.
Ah, je pense qu'au moins c'est clair d'office. On espère qu'on ne va pas rendre des gens tristes de dire ça direct et qu'ils vont continuer à nous écouter. Je pense que c'est bien aussi de prendre l'occasion d'avoir quelqu'un comme toi qui étudie un peu ces questions en long et en large, de peut-être aussi revenir vraiment sur certains mots qui sont utilisés de manière commune. Par exemple, le musée, tu vois, moi j'ai en tête le musée, ça commençait comme Wunderkammer, un peu ces cabinets de curiosité. Ici, on est dans une salle qui s'appelle Studio Olo, qui est la version italienne du cabinet des curiosités. Donc, quelque part, je pense que ça peut être cool aussi de savoir comment on est passé de cette chose un peu cabinet de curiosité à musée.
Bon, je crois que le point, ça c'est, faut pas forcément être un grand expert pour le savoir. Peut-être c'est juste pour dire le point principal, c'est la question de la collection. Après, je crois que le musée, on peut dire que le musée a une existence qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus longue que, disons, son existence ne commence pas à partir de la Wunderkammer, mais effectivement, je crois qu'il y a aussi depuis une dizaine d'années une sorte de retour en grâce ou de fascination pour ces collections importantes que sont, qu'ont été constituées en fait par des aristocrates ou surtout des familles royales à partir du XVIIIe siècle, donc le Wunderkammer et tout ça, mais je crois que vraiment on peut aussi le prendre dans sa définition beaucoup plus ancienne, hein, qui est le temple des muses, et je crois que ça c'est aussi quand même important de rappeler cette idée-là qu'il y a, donc c'est une manière de, c'est un espace construit à l'Antiquité qui est à voir avec le sacré. Donc, je crois qu'il y a une longue tradition de la monstration, de la révélation, une non moins longue tradition de la collection. Et en fait, ces choses, elles sont pas forcément liées dès le début. Et le musée contemporain, il a ça disons, le musée contemporain, en tout cas depuis le XVIIIe siècle, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a la fusion de la collection et du temple de la monstration. Et donc, je crois que c'est assez important. Je crois que c'est quelque chose qui reste encore maintenant quand on cherche à définir le musée, parce que ça, c'est un champ d'affrontement assez important, la définition du musée. On peut le prendre aussi d'un point de vue très institutionnel. Il y a l'ICOM, hein, l'International Council of Museums, qui cherche à définir le musée. Il y a une nouvelle définition qui a été proposée il y a 2 ans maintenant. Et puis on observe quand même que cette définition, elle est très mouvante, et puis qu'on essaye aussi, en la construisant, d'inclure des institutions qui, a priori, ne seraient pas des musées. Il y a aussi la question de l'aspect commercial. En Europe, on a une tradition non marchande du musée et de la collection. Il y a aussi cette idée d'inaliabilité des collections, donc on peut, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis, on le voit, il y a une approche beaucoup plus commerciale, il y a moins de tabous sur le fait, par exemple, de vendre des objets qui appartiennent aux collections. Donc en fait, je crois que la définition du musée, elle peut exister d'un point de vue institutionnel, et je crois qu'aussi on peut c'est pas non plus une définition protégée. Il y a plein de gens qui vont dire qu'ils vont faire des musées de, et il y a plein de musées privés qui respectent pas forcément la définition pure du musée.
Mais on peut se dire que quelque part le musée est un espace qui a une forme de fonction qui est vraiment au niveau pratique celle de montrer une collection ou des collections, mais elle a aussi cette fonction du sacré qui est beaucoup plus difficile à définir, ou beaucoup plus large, on va dire, dans sa manière d'être déployée. Et aussi, quelque part, elle est liée, on peut l'appeler la modernité, dans le sens que c'est un phénomène dans l'histoire humaine assez récent.
Oui, absolument. Surtout, la version qu'on a actuellement, c'est vrai que c'est quelque chose de relativement récent. Quand on parlait avant de Wunderkammer ou de Studiolo, ça reste des gens, soit des familles royales, soit des aristocrates, qui gardent chez eux des collections qui sont montrées à un petit nombre d'initiés. Le musée actuel, il y a la volonté que ça puisse être ouvert au plus grand nombre. Donc déjà, ça, c'est une différence assez importante. Et puis, la question de la collection, elle n'est pas non plus complètement résolue. Mais c'est vrai qu'on peut aussi en parler par rapport où on est ici, hein, au KBCB, au Kunsthaus Centre d'Art Pascal. C'est un centre d'art donc, qui se rapproche donc d'une Kunsthalle. Dans sa programmation, dans son approche, dans son rapport aux artistes qui y sont invités et tout ça, mais malgré tout, il y a une collection, alors que souvent les Kunsthalle n'ont pas de collection. Donc c'est, je crois que là, il y a toujours aussi une négociation avec les termes, la manière de se définir. C'est aussi, il y a aussi une dimension, on pourrait dire, marketing. Parce que finalement, c'est comment tu te positionnes pour t'affirmer comme musée institutionnel, parce que tu as besoin d'être un musée institutionnel, ou au contraire, de te positionner comme une Kunsthalle, parce que ta programmation la programmation que tu as envie de défendre, elle se rapproche plus dans sa manière de s'adresser au public, dans sa dimension expérimentale, dans ses conditions de monstration, simplement, d'une Kunsthalle.
Et du coup, est-ce qu'on peut se demander s'il y a un lien entre le fait de faire collection ou pas faire collection influence aussi les pratiques qui sont montrées?
Alors moi, je pense que oui. Hein, ça, c'est peut-être que là, c'est vraiment pour moi quelque chose de central. C'est que la collection, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été questionné pendant longtemps, ou disons qui a été questionné dans le sens où il y a elle est issue d'une fascination. Elle est issue de fascination pour certaines thématiques, pour la rareté de certains objets. Et donc ça, c'est ce qui fonde la collection souvent. Moi, et c'est ça aussi qui m'intéresse, je crois, dans ma recherche muséologique, c'est vraiment se poser la question de... Il y a des nouveaux usages qui sont pensés pour les collections. C'est vraiment un terme, je crois, qui est assez important de se dire. Pendant longtemps, les objets n'étaient que là pour être montrés. Et sous l'impulsion de dynamiques décoloniales, antiracistes notamment, ou féministes, on commence d'interroger ces collections et la manière dont, disons, les conditions d'acquisition aussi de ces collections. Et à partir du moment où tu commences de remettre en question l'existence même des collections, le sens même de ces collections, c'est aussi une question d'ontologie, c'est à partir du moment où tu commences de remettre en question ces collections, je crois, pour répondre à ta question, que vraiment on est obligé de reconsidérer également les conditions de leur publication, de leur mise à disposition du public, la manière dont elles sont montrées, mais également la manière, disons, le dispositif narratif qui les accompagne. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper importantes, je crois, pour comprendre les nouvelles dynamiques du musée. C'est aussi pour ça que, au début, quand moi je dis de manière un peu provocatrice, peut-être que les initiatives les plus intéressantes, ou les plus subversives, elles sont moins à chercher du côté du musée d'art que d'autres musées. C'est parce que le musée d'art a des collections qui, on veut dire le musée d'art contemporain, a des collections qui sont, qui ont, disons, la dynamique de critique institutionnelle, elle est presque consubstantielle du musée d'art. Ça fait partie de la pratique artistique de beaucoup d'artistes. Et puis, en fait, il y a une autoréflexion permanente qui définit le musée. Et je crois que ce qui est intéressant maintenant, c'est que volonté critique, elle a essaimé, notamment dans les musées de société, qu'on pourrait dire, ou les musées d'histoire, musées d'ethnographie. Donc ces musées-là sont maintenant obligés d'inventer des nouvelles formes dans la manière de montrer leurs collections, alors qu'ils étaient pendant près d'un siècle, on va dire, préservés d'une remise en question drastique de leurs collections.
J'étais dans les Balkans récemment et l'année dernière, et on a visité des musées d'histoire naturelle, et ils ont beaucoup de musées qu'ils appellent ethnologiques. Donc je conseille, en passant, si quelqu'un va dans les Balkans ou peut-être d'autres pays où les musées peut-être ne sont pas mis trop en avant, d'aller les visiter, parce que c'est des musées qui sont presque restés les mêmes depuis les années 80, voire 70. Et c'est presque un musée du musée, si tu veux. On voit vraiment style musée naturel. Il y a encore des vieilles cartes géologiques, le dinosaure et tout ça. Du coup, je me demande aussi quelque part comment on fait pour préserver aussi cette vieille manière de faire, tu vois. Il y a une mise à jour où on va refaire le musée d'histoire naturelle. Je peux prendre un exemple en musée récent. C'est l'Aquatis à Lausanne, qui est bien fait, je pense, la manière dont il a été pensé, les bacs. Il est assez complet comme ça, mais il y a aussi un peu un côté Disney World ou Sea World et tout. Et de l'autre côté, tu as ces vieux musées qui sentent la poussière. À Neuchâtel, je peux penser aussi au musée d'histoire naturelle qu'ils ont. C'est toute cette galerie avec les animaux empaillés. Qui, quelque part, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois, de ça. Et en même temps, c'est une collection. On va développer toutes ces questions-là, aussi artistes institutionnels, on va y revenir. Je pense que c'est aussi... On peut prendre un moment pour se demander qu'est-ce qui fait une collection. Parce que tu vois, ces musées que je parlais, de musées ethnographiques au Balkan, les musées ethnographiques, c'est toujours un peu... Imagine-toi les Appenzellois, tu vois, après il y a les Glaronnais, puis il y a les Neuchâtelois, ils ont tous leurs habits de fête, et là-bas ils ont des régents aussi comme on peut avoir chez nous, et du coup il y a des mannequins avec ça, mais il n'y a pas un vrai discours, ils sont un peu, à part le discours identitaire, mais qui est plus actuel, parce que c'est des musées qui ont été faits dans les années 80. Voilà, du coup, j'imagine qu'il y a eu des collections qui ont été faites dans cette volonté-là de créer une sorte d'unité nationale ou de mettre en avant la diversité. De manière plus large, comment on fait une collection ?
Mais je crois que là, je trouve que c'est vraiment intéressant ce dont tu parles avec ces anciens musées, parce qu'effectivement, je crois qu'en Suisse aussi, il y en a encore hein, des musées qui sont, on pourrait dire, dans leur jus comme ça. Et je crois que j'aimerais bien répondre à ta question à comment on conserve en fait ces anciennes manières de faire, ou comment on garde une trace de ça. Et en fait, je crois que c'est ça que je trouve intéressant et qui est assez fascinant, c'est que je pense maintenant qu'un certain nombre de musées sont en train de garder une trace de ça. C'est-à-dire que si les parcours d'exposition sont réactualisés, la grammaire, la manière de montrer les expos sont disons, inspirés de nouvelles traditions muséographiques, scénographiques. Donc ces choses... La forme change, mais en fait, je crois que le discours qui est assez important, notamment, par exemple, c'est assez présent dans les musées d'ethnographie, parce qu'il y a une vraie volonté critique sur le passé du musée d'ethnographie, parce que le musée d'ethnographie, c'est un musée colonial par définition. La discipline ethnographique, la discipline universitaire ethnographique, elle naît du colonialisme. Donc, en fait, comment on continue, disons, qu'est-ce qu'on fait avec ces musées ? Est-ce qu'on les ferme ? Est-ce qu'on rejette toutes ces collections ? Il y a vraiment des dilemmes éthiques qui se posent par rapport à ça. Et une prise de position qui est assez intéressante en général, c'est de dire, bon, plutôt que vouloir refaire une nouvelle exposition, il y en a qui le font encore, mais plutôt que de faire encore une énième exposition sur la richesse des arts premiers... En Afrique de l'Ouest ou sur des pirogues de Papouasie-Nouvelle-Guinée, peut-être que en fait c'est plus intéressant de se poser la question de telle ou telle exposition qui a été faite dans les murs même du musée en 1954 ou dans les années 60, se poser la question, ok, ça voulait dire quoi de faire cette exposition ? Peut-être c'est intéressant de regarder aussi les archives du musée. Retrouver les anciens discours, la manière dont les objets étaient libellés, dont on parlait des objets. Donc, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez important dans dans la dynamique de ces musées, de vouloir en fait avoir une approche auto-réflexive, auto-critique sur leur collection. Et je crois, et ça c'est peut-être on aura l'occasion encore d'en parler un peu plus tard, mais je crois pour moi aussi c'est vraiment un des propos principaux de ma thèse, hein, c'est de se poser la question des stratégies pour réactualiser le musée. Parce qu'il y a... Comme tu m'as présenté, je trouvais un peu drôle, mais j'aime bien parler du musée du futur, parce qu'il y a un côté séducteur dans cette appellation. C'est quoi le musée du futur? Mais quand on s'intéresse au discours des directeurs et directrices d'institutions et aux curateurs, curatrices, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc le musée du futur, on va inventer le musée du futur. C'est une volonté de faire de cette institution muséale qui doit être critiquée, essayer de la faire basculer dans le 21e siècle. Donc c'est vraiment des choses là. Et je pense que typiquement le musée d'ethnographie, on pourrait parler par exemple du travail que Clémentine Delis, qui a été directrice du Weltkulturenmuseum à Francfort pendant 4 ans, de 2012, je crois, jusqu'à 2016, quelque chose comme ça. Elle a essayé, dans ce musée d'ethnographie ancienne, d'inventer des nouvelles formes, des nouvelles manières de raconter les collections du musée. Et puis, ce que je trouvais important, puis je crois que pour moi, ce qui est une des solutions qu'on peut encore explorer et qui, je crois, est intéressante, c'est que pour elle, c'est important d'aller chercher des voies critiques en dehors du musée. C'est-à-dire que les conservateurs et les conservatrices font certes très bien leur travail, connaissent bien les choses, et ils sont pas forcément les gardiens du temple, pour prendre vraiment l'expression, mais c'est pour pouvoir porter un regard critique sur son institution, ça vaut la peine d'aller chercher des gens à l'extérieur. Et elle, c'est vraiment ce qu'elle a essayé de faire en invitant des artistes, notamment, mais aussi des designers de textiles aussi, des gens issus de différentes communautés, pour venir réinterpréter les collections, travailler avec les collections et essayer de donner de réinventer les discours sur ces collections, mais pas depuis le musée, vraiment depuis l'extérieur. Et ça, je crois que c'est vraiment une dynamique qui est intéressante, qui je crois vaut la peine d'être explorée, et puis je crois qu'elle est assez importante pour plusieurs musées qui ont, je crois, à mon sens, qui font des propositions qui méritent d'être suivies, que ce soit des musées d'ethnographie, des musées d'histoire, de société, d'histoire naturelle. C'est quand on décide aussi d'ouvrir le musée à des discours extérieurs qui peuvent être critiques, mais pas juste critiques, avec des gens presque des non-initiés du musée, des personnes qui sont déchargées de toute fidélité par rapport à l'institution muséale, qui puissent avoir une vraie approche iconoclaste, en fait. C'est vraiment ça, comment tu crées cette véritable approche iconoclaste.
Pour rester encore une seconde sur la question des collections, parce que quelque part, moi je suis un peu, je pense, collectionneur obsessionnel, dans le sens où je pourrais collectionner tout depuis que je suis enfant, des couvercles de bouteilles au timbre, donc faut que je me limite. Mais je me dis, quelque part, une collection, pour qu'elle soit une belle collection, c'est quand elle représente le maximum de variantes du même. Autrement, ce n'est pas une collection. Si j'ai que 4 voitures, il me manque déjà des couleurs, tu vois. Et après, comment je fais? Est-ce que je crée une collection des Hot Wheels, donc je vais me c'est ce qui fait mon neveu, donc je me concentre que sur les Hot Wheels, donc je dois avoir le maximum de variantes Hot Wheels, mais après à l'intérieur de ça je peux quand même me dire bon, je prends les Hot Wheels censés être rapides, je prends les Hot Wheels genre Jeep tout terrain, et j'ai toujours été curieux Si pour reprendre un peu ce que tu dis, quelque part, il y a eu jusqu'aux années 90, je parle en non-initié, mais une sorte d'idée d'accumulation du musée, voire avec des expropriations pas toujours très nettes et en lien aussi à des campagnes de colonisation. Quelque part, après, il y a eu un peu la question de la catégorisation. qu'est-ce qu'on a, comment on peut le ranger, et aussi le problème fondamental de dire, bon, si on fait un musée d'art premier en Suisse, ce serait aussi problématique de se concentrer que sur les deux ou trois rituels d'Appenzell qui déjà ressemblent à des rituels ou des masques qu'on retrouve dans d'autres cultures. Donc quelque part, pour faire collection, on est aussi obligé d'aller chercher des variantes, voire d'aller vraiment à l'étranger, etc. Donc ma question est de savoir un peu si dans tes études, et si c'est aussi une question, les critères qui font collection ou comment on avance dans la collection, dans la quantité, il y a plusieurs choses en confrontation, quantité, qualité. À partir de quel moment on a assez pour être exhaustif sur les voitures Hot Wheels?
Bon, ce que je trouve intéressant, en tout cas, peut-être dans ta question, ce sur quoi j'aimerais peut-être revenir, c'est que je crois qu'il n'y a pas de définition précise à ces qui permet vraiment de borner en fait l'exhaustivité de la collection pendant longtemps, et aussi c'est lié historiquement aussi aux questions de marché. Donc le marché joue un rôle important, l'effet de rareté est un élément important de la collection. Et je crois que c'est aussi le fait d'être collectionneur compulsif et peut-être pas exactement la même chose que la stratégie d'un musée qui s'ancre normalement dans un concept de collection. Et ce concept de collection, c'est quelque chose c'est souvent un document qui pose les cadres de qu'est-ce qu'on collectionne, où on va, jusqu'où on va, qu'est-ce qui mérite ou qu'est-ce qui ne mérite pas d'entrer dans le musée. Et c'est souvent ça en fait qui définit le contenu des collections. Et je crois aussi par rapport à ce que tu disais sur le fait de vouloir aller chercher plus loin des objets donc d'art premier ou comme ça, parce que en Suisse il y aurait moins de diversité. Je crois que c'est pas tout à fait le cas en fait. C'est que je crois juste que je crois plutôt que c'est une croyance qu'il y a une plus grande richesse en dehors, parce que c'est empreint d'un imaginaire exotique. C'est ça qui fonde aussi les collections d'art premier, c'est l'imaginaire exotique. Et effectivement, les objets qui t'appartiennent ou dans lesquels tu as grandi, on a tendance, après ça change hein, en fonction des périodes, et on peut aussi en avoir une lecture plus politique hein, on peut savoir en fonction d'une sorte de dynamique politique conservatrice ou une volonté en fait de renouer avec une histoire grandiose, nationaliste, etc. Donc je pense qu'en fait, les dynamiques, elles changent. Tout à coup, on fait des découvertes à l'étranger, on est fasciné par... Il y a une période de fascination pour certains types d'objets, et ça, tout à coup, acquiert une dynamique de... Ces objets acquièrent une dynamique de rareté, on veut les collectionner, on constitue des collections. Souvent, c'est souvent lié aux capacités économiques en fait des collectionneurs, qui vont ensuite verser ces collections au musée. Et je trouve que peut-être pour répondre encore à ce que tu disais, je trouve que c'est peut-être intéressant de parler pour aller vraiment dans les bases de l'histoire du musée en Suisse, ou peut-être pas les bases absolues, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, les objets suisses n'ont pas été considérés. Par exemple, jusqu'au milieu du 19e siècle, on fait peu de cas de ce qu'on appelait à l'époque les antiquités suisses. Et à partir du moment où on a fait la correction des eaux du Jura et que le niveau des lacs a baissé, on a découvert les sites palafitiques, donc les villages sur pilotis, hein, donc ce genre de choses. Et tout à coup, en découvrant ça, on s'est rendu compte que peut-être qu'en Suisse, on avait une histoire grandiose avec des ancêtres antidéluviens. Et donc on s'est dit, ah, c'est magnifique, il y a un véritable intérêt en fait pour les il faut collectionner l'héritage. L'histoire suisse est en fait riche. À ce moment-là, on commence de penser ça. C'est pas par hasard, ça existe. Ces découvertes, elles sont presque en même temps que la création de la Suisse moderne.
C'est lié quand même à un discours de création de l'État aussi.
Exactement. Ça va dans ce sens-là, en fait. Ça va dans ce sens-là. Et à partir du moment où on crée la Suisse moderne, ça prend environ 40 ans jusqu'à ce qu'on ait un musée national qui est en fait pensé pour accueillir ces collections-là. Avant, on s'en fichait, hein, c'était un truc qu'on vendait pour pouvoir acheter d'autres choses plus intéressantes. Mais la découverte d'un ancêtre et en même temps cette volonté politique de construire un État-nation suisse, et puis lui inventer une histoire. On sait depuis que les palafites, c'est pas juste suisse, quoi. C'est quasiment toute l'Europe continentale. Donc, mais à l'époque, on découvre ça en Suisse, on se dit, ah, c'est incroyable. Voilà les ancêtres, les Suisses, pour le coup, primitifs. Et on essaye de construire un discours nationaliste autour de ça. Et en fait, la création des musées d'histoire, notamment le musée national à Zurich, c'est une émanation de ça.
Et tu vois, avant, je disais, par rapport à la diversité, c'est pas une question de se dire qu'il n'y a pas assez de rituels en Suisse. Je pensais plutôt par rapport au point de vue scientifique, comme peut l'être les musées d'histoire naturelle. Tu vois qu'ils ont ces immenses collections de papillons. Donc, quelque part, à un moment donné, Charles Darwin est un exemple. Tu vois, on fait des missions, on peut coloniales, on peut exploration, et puis on met dedans un scientifique qui va aussi faire des archives d'espèces. Et on va voir quelle est la différence du papillon anglais avec le papillon à des ailes de 20 cm. Donc, quelque part, je pense qu'il y a aussi cette question pour ce qui est de l'ordre de l'humain ou du rituel, quelque part, d'aller voir l'autre, mais pas pour l'exotiser, mais pour juste voir les variantes, toujours pour reprendre la panzelle, parce que je pense que c'est celui qui est aussi au niveau sociétal à préserver le plus certains types de rituels ancestraux. Tu vois, ils ont des bijoux avec des pièces, des 5 francs, des 2 francs, etc. Et c'était très intéressant de revoir le même type de bijoux dans des communautés montagnards de Macédonie et tout l'arc balkanique. Donc, quelque part, il n'y a pas une idée d'exotisation des sociétés des Balkans. Il y a plutôt le constat de voir qu'il y a aussi une histoire qui s'est faite à travers les bijoux, les mariages liés aux bijoux, qui dépasse aussi des frontières nationales.
Non, absolument. Et je pense que c'est vrai. Là, on ouvre aussi le chapitre de l'objet un peu comme agent. Hein. Ça, et je crois que c'est aussi quelque chose qui, pour le coup, on peut aussi le connecter assez fort en fait avec l'art, hein, avec peut-être de l'anthropologie de l'art. Donc, de quoi l'objet est-il le signe ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais je voulais aussi peut-être dire par rapport à, puisque tu as cité Charles Darwin et la volonté de collectionner. On a parlé de la Wunderkammer et du Studiolo. Peut-être c'est aussi important de rappeler que l'idée même de la collection dans la Wunderkammer, c'est pas uniquement une collection qui est guidée par la fascination. c'est vraiment la volonté de créer un petit univers. C'est avoir dans une chambre ou dans un espace un échantillon de l'univers. C'est pour ça qu'il y a cette démarcation aussi qu'on a utilisée entre les naturalia, etc. Tout ce genre de on caractérise certains objets comme naturels, artificiels, dans une volonté donc de pouvoir exposer la diversité de l'univers et que ça soit la création humaine ou la création de la nature. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que des fois on oublie, disons quand on parle des Wunderkammer, on a toujours cette fascination assez forte pour les objets, mais ce qui est aussi important de rappeler, c'est que les Wunderkammer, l'idée même d'une Wunderkammer, la manière dont elles étaient construites, c'était toujours en opposition, disons vis-à-vis, pas forcément en opposition, mais un des pans du mur de la Wunderkammer, c'est en général une bibliothèque, avec la volonté d'avoir un répertoire des savoirs qui puissent être mis en perspective avec un répertoire des objets ou de... Donc je pense que ça c'est aussi quelque chose qui existe encore dans le musée. Quand on entend des musées qui se revendiquent d'être des musées universels, c'est encore un terme qu'on entend. D'ailleurs il y a une déclaration assez célèbre en début du siècle, début du 20e siècle, de toute une série de musées, le Louvre, le British Museum, Reina Sofia, etc., la déclaration des musées universels. Et c'est assez intéressant parce qu'à la fois, ces musées prétendent détenir toute la diversité du monde, et en plus, ils utilisent cette notion d'universalité comme un argument qui légitime leur possession. Parce qu'il s'agit de dire, quand on est le British Museum, on a beaucoup d'objets qui viennent d'en dehors de la Grande-Bretagne, mais c'est parce qu'on est un musée universel qui est en fait, qui n'appartient pas au pays, qui montre la diversité internationale, l'universalité des objets. Donc tout le monde est libre de venir voir la diversité de l'humanité. Mais là derrière, c'est un agenda politique, c'est la volonté de ne pas restituer, puisqu'il s'agit de donner un aperçu du monde entier.
Oui, puis je parle. Par rapport au British Museum, je pense qu'il y a aussi le côté de montrer comment il était large, quoi, et donc jusqu'à où on est allé, un peu en mode découverte de planètes, où on est allé jusqu'à là-bas, regardez ça. D'un autre côté, je me dis, la mise à jour, elle est aussi nécessaire parce que maintenant, on a Internet, quelque part, qui a repris le relais de cette idée universelle où on peut avoir tout, on tape n'importe quelle société ou objet, on va le trouver quelque part in situ dans son espace à travers Internet. Donc, je me demande aussi, il y avait effectivement cet agenda de montrer, ok, on est allé en Égypte, et puis bam, on ramène ça, sorte de cannibalisme culturel où on mange le truc. Et en même temps, il devait y avoir aussi peut-être un côté pratique où on ne pouvait pas voyager en Égypte, donc il n'y avait même pas encore la photographie ou à peine les tableaux. Et du coup, je trouve que c'est aussi intéressant, justement, pour revenir au contemporain, que quelque part, il faut dealer avec le fait qu'il y a Internet maintenant. Et on se retrouve avec la cave pleine, mais qui était aussi tout simplement une manière de ramener le souvenir. Tu vois, c'est très humain. Alors moi, je suis le premier que j'achète une bricole, un petit truc à la con, où je vais, mais c'est aussi une manière je sais pas, ça fait un levier psychologique. Tu ramènes un petit bout de ton voyage, quoi. Après, évidemment, c'est pas le corail.
Absolument. Mais disons, t'as raison. Après, le paradigme contemporain, c'est de dire, c'est quand même de commencer d'interroger à la fois les conditions d'acquisition de ces objets, parce que Si toi, tu ramènes des souvenirs d'un voyage, alors on peut discuter. C'est peut-être qu'il y a, il y a des dynamiques de pouvoir quand même, mais a priori, en tant que simple personne, si tu vas en Italie, dans le sud de l'Italie, que tu ramènes un souvenir, la dynamique de domination, elle est moins importante que ce qui a pu être fait sous un régime colonial. Donc ça, c'est, je pense, aussi une des premières choses qui est importante de questionner par rapport à aux collections donc des musées. Et puis, une autre chose, c'est que cette question d'universalité, ça doit aussi être mis en perspective avec la question de l'accessibilité, parce qu'en fait, c'est bien beau de dire on veut pas rendre les objets parce que on est une sorte de musée monde, de musée universel qui donne à voir toute la création possible. Sur le principe, on peut être d'accord, mais c'est complètement nier les conditions d'accessibilité de ces objets pour la majorité des gens. Si le Louvre veut dire on est ouvert à tout le monde, certes, le Louvre est ouvert à tout le monde, mais c'est quand même plus difficile pour des questions de pour des questions notamment économiques, mais aussi pour une question de politique, de rapport aux frontières, peut-être des questions racistes également. C'est sûr que les gens, des Sénégalais ou des Maliens, ont plus de peine à accéder au Louvre que des Français, alors que finalement on pourrait se dire que si on veut être un musée véritablement universel, il faudrait que ces collections, elles puissent être accessibles à toutes et tous. Ça, c'est, je crois, aussi un point, donc la question de l'accessibilité des musées.
Mais avant de l'accessibilité, je me posais aussi une autre question pendant que tu parlais, qui est, en tant que petit collectionneur, des fois, moi, je vais dans des pays, mais Italie, très proche de nous, et je vais collectionner, mettons, des bouchons ou des étiquettes de boissons qui, comme on a vu aussi pour la Suisse, ce qui est autour de nous, en fait, on s'en fout un peu, et on a tous peut-être des amis qui ont des collections bizarres. Donc, quelque part, mettons que je fasse une collection de bouchons, de boissons gazéifiées, et à un moment donné, j'en ai 5000. Et j'ouvre un musée et je commence à faire payer un ticket par rapport à ça. Quelque part, j'ai mis l'attention sur quelque chose qui n'était pas considéré comme important et j'en ai montré une importance. Donc j'ai révélé le fait que la collection peut aussi donner de l'importance à quelque chose qui est banal. Et puis je pense que les États-Unis, c'est le plus grand exemple de ça, parce qu'ils ont, des collectifs, ils collectent tout, quoi. Aussi dans l'idée d'une spéculation, c'est vraiment très populaire. Je collectionne les tortues ninja, je collectionne ça. Mais parce qu'il y a aussi un côté spéculatif capitaliste, quelque part, parce que le modèle a fait ses preuves avec des agents comme les grands musées. Donc, quelque part, je me dis, c'est pas très facile d'être dans un musée parce que tu te confrontes à plusieurs choses. Comment tu sélectionnes, tu fais attention à un truc qui n'en a pas, mais après, en fait, on te dit mais tu te fais de l'argent sur ce truc. Et puis il fait sens aussi peut-être au sein de, quand il est mis vis-à-vis ou côte à côte d'autres éléments.
En tout cas, ce que je trouve peut-être avec ton quand tu ouvriras ton musée des capsules des gazos, ça, c'est, je viendrai volontiers le voir. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que à partir du moment où tu décides de faire ça, si tu fais ça très sérieusement et que tu en as à la fin 5000 ou 10000 ou peut-être plus, hein, ce qui est probable, c'est que tu acquiers en même temps que ta collection une véritable expertise sur la manière dont ces capsules sont fabriquées. Et ça, je trouve aussi, c'est ça aussi qui fait la richesse de la collection en elle-même. C'est pas uniquement le foisonnement et la diversité. Et probablement que quand tu commences, si tu commences à faire ça de manière très sérieuse, ben tu vas à la fois réussir à obtenir donc des éditions limitées, peut-être que tu vas, mais c'est le principe même, hein, de ces collections. Il y en a beaucoup. On pourrait aussi parler de comme artiste Wim Delvoye, hein, donc cet artiste belge qui notamment a cette collection immense de vaches qui rient, en fait, de boîtes de vaches qui rient. Donc ça, c'est aussi où il a toutes les éditions limitées, etc. C'est qu'au bout d'un moment, tu commences d'avoir une véritable expertise et probablement que tu vas dépasser l'expertise même des gens qui produisent ces choses-là. Et ça, je crois que c'est aussi c'est un truc qui est fascinant avec la collection. Mais encore une fois, par rapport à ça, je trouve que pour moi, ces collections ont toujours un truc super et fascinant à voir. Elles ont aussi un truc super et fascinant dans ce qu'elles racontent du collectionneur ou de la collectionneuse. C'est ça aussi, je crois, qui est assez important. Et peut-être on pourrait explorer cette dimension-là. Mais est-ce que c'est pas ça fondamentalement qui définit, est-ce que la collection, elle raconte pas aussi beaucoup du collectionneur? Je parlais avant des conditions d'acquisition de la collection. Ça raconte beaucoup de l'histoire des musées. Ça raconte beaucoup de la manière dont les musées sont pensés, dans la manière dont certains musées sont une émanation coloniale construite par les pays européens. Et donc ça, c'est des choses, mais pour des collections qu'on va dire peut-être plus anecdotique, sans porter un jugement particulièrement négatif, mais c'est vraiment des collections, donc des capsules de boissons gazeuses italiennes. Ça raconte quelque chose de fascinant sur toi. Donc c'est aussi ça, je crois, qui est particulièrement intéressant et qui crée en fait aussi cet intérêt, cette appétence pour visiter des collections simplement.
Oui, bah, je pense que ce que le British Museum dit, c'est l'histoire coloniale, quoi. C'est l'envie d'avoir des souvenirs grandeur nature de tous les pays qu'ils ont touchés, voire conquis. Et puis je pense que moi, je suis un peu de manière non professionnelle, vu que tu es un muséologue, mais un peu la question entre British Museum et la Grèce, parce qu'ils sont en négociation depuis très longtemps par rapport à des... Je ne me souviens plus...
Les marbres du Parthénon.
Les marbres du Parthénon. Puis je pense que c'est aussi... Je m'intéresse aussi à ça parce que ça sort un peu des restitutions souvent liées avec l'Afrique ou d'autres pays. Et que c'est très occidental aussi comme question. Mais il y a aussi un peu ce côté où la Grèce... quelque part, aimerait les avoir aussi parce qu'ils savent qu'il y a un business lié autour de ça et que quelque part, ça devient aussi... On dépasse le côté, on va dire, l'agenda du musée parce qu'on veut avoir aussi ce qu'il y a autour. Et je me demandais, par rapport au musée aussi, si dans tes études aussi, c'est une question traitée. Le fait de, par exemple, créer ou construire un musée dans un quartier est réfléchi aussi pour, je sais pas, revaloriser un quartier ou comme là, justement, augmenter un tourisme. Est-ce que ça, il fait pas, est-ce qu'il y a aussi des études qui dans la muséologie, vont se pencher sur... l'exogène, non?
Ah oui, ben écoute, bon alors l'exemple le plus connu c'est Bilbao, hein. C'est le Guggenheim à Bilbao qui, où tout à coup avec ce geste de Frank Gehry, c'est tout à coup tu as un musée qui est un monument en lui-même qui attire en fait visuellement, qui fonctionne très fort, qui transforme la ville et puis qui va créer dans cette ville de Bilbao tout à coup un effet. Ça va amener du tourisme, ça va amener... évidemment, il y a plein de facteurs exogènes qui se mettent en place par rapport à ça et qui créent... c'est comme une sorte de gentrification. Tu penses aussi à des phénomènes de gentrification qui sont liés.
Ou de ce qu'on peut appeler développement. Disons,
oui, ou de développement. Je trouve que c'est un peu paradoxal parce qu'à la fois, il y a l'exemple de Bilbao qui est vraiment une sorte de réussite économique, touristique, etc. Il y a beaucoup de villes qui ont essayé de reproduire ça et avec des résultats assez contrastés. En fait, ça ne marche pas toujours.
Lugano, je peux dire qu'il a tenté avec le lac.
Non, mais je crois que aussi ce qui est un peu. Ce qui est aussi important, c'est que le musée. Et tu parles de la Grèce et du British Museum. Et effectivement, en fait, ce qu'il y a qui est assez particulier, c'est qu'on a pendant plusieurs siècles, piller des pays ou des communautés plutôt que des pays, mais on a mis ça dans des musées et puis en fait le musée européen a continué de se développer en mettant en place toujours plus de critères et là c'est aussi quelque chose, ça serait intéressant de discuter de ça avec des gens qui sont en charge de la conservation, mais des restaurateurs, des conservateurs et tout. Mais c'est vraiment, en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que on a construit autour du musée toute une série de règles sur la manière de bien conserver les œuvres. Et maintenant, c'est devenu un argument. Par exemple, dans le cas du British Museum, je trouve que l'ironie de l'histoire, c'est qu'en fait, le British Museum a dit à la Grèce « Oui, mais on ne peut pas vous rendre ces marbres parce que vous n'avez pas les conditions qui permettent de les garder, de les conserver dans des bonnes conditions. » Et au-delà de l'aspect condescendant de la chose, c'est quand même assez fou de voir que, en fait, ces marbres, ils ont été achetés par un lord anglais, Lord Elgin, et en Grèce. Il a ramené ça en Angleterre. Et puis, c'est évidemment, comme beaucoup de statues grecques, c'était des statues polychromes. Sauf que on peut parler du coup en histoire de l'art, c'est bien aussi ce genre de choses, mais c'est la grande époque où il y a les théories de Winckelmann qui sont très fortes. Et en fait, à ce moment-là, le beau absolu grec, on pense qu'il est complètement blanc.
On peut dire Winckelmann,
C'est un historien de l'art... Qui a en fait développé qui a centré trop dans le détail de sa pensée, mais il a pas mal développé de choses de il s'est intéressé en particulier à la statuaire antique et puis il a instauré quelque chose qui a duré assez longtemps, qui est une sorte de hiérarchisation entre les époques. Qui a fait en fait pour le coup assez long feu et qui fait que pendant longtemps on a considéré l'art grec comme quelque chose d'absolument supérieur à tout le reste, notamment à l'art romain ou comme ça. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que dans ce discours, parce qu'en fait parce qu'on avait mal observé certains objets ou comme ça, il y a cette idée que les statues sont blanches. Et donc, quand Lord Elgin, qui a ramené ses marbres de Grèce en Angleterre, il a vu qu'elles étaient colorées, il a dit « bon, on va les nettoyer ». Donc, en fait, ils ont été complètement brossés à la brosse métallique pour les rendre blanches. Donc, en fait, il y a déjà là, de la part de l'Angleterre, du British Museum, en l'occurrence, une atteinte hyper importante sur les objets. Et puis, c'est tout le paradoxe de dire 200 ans plus tard, oui, mais en fait, on ne va pas vous les rendre parce que vous n'avez pas les conditions pour les conserver. C'est le même discours qui a été adressé au Nigeria dans la volonté de restitution des bronzes du Bénin, ce qu'on appelle les bronzes du Bénin, qui sont en fait toute une série de, notamment des bronzes, mais aussi beaucoup de statues, de masques, etc., qui appartenaient au royaume Oba du Bénin, qui a été pillé par une expédition punitive anglaise. Ils ont foutu le feu au palais, et en fait, quand tu observes ces objets maintenant dans les musées. Il y en a dans toute l'Europe, aux États-Unis, ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement vendu. Maintenant, il y a en Suisse une initiative, en Suisse et en Allemagne, une initiative de Benin Initiative qui vise justement à trouver des solutions de restitution ou de changement de propriété des objets, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes ces objets, certains ont été très abîmés par l'expédition punitive en elle-même. Il y a des traces de brûlures, il y a des choses comme ça. Et pendant longtemps, le discours, c'était de dire au royaume du Niger, ouais, on ne peut pas vous les rendre, il n'y a pas de musée, selon les standards occidentaux, il n'y a pas de musée qui est capable d'accueillir ces objets. Et c'est aussi vraiment ce double standard qui est assez fort, en fait, je crois, dans les questions de restitution, dans les discours sur la restitution.
Pour rester sur un registre neutre, dans le sens hypothétique, est-ce que ce serait envisageable une solution, je pense aux grottes de Lascaux, et je sais que c'est une méthodologie qui est en train d'être explorée aussi par d'autres sites. Là, on parle plutôt d'archéologie, donc, mais qui est quand même liée à une vraie question de conservation. Donc je rappelle rapidement la grotte de Lascaux. À un moment donné, on découvre que la respiration des visiteurs nombreux risque de détériorer les peintures rupestres, et du coup on décide d'en faire une copie exacte à côté, donc avec des matériaux résistants, voire on peut la refaire à Aeternum, et que quelque part, pour moi, c'est un exemple qui, quelque part, résout le problème d'accessibilité, parce que ça permet de continuer l'accessibilité au site, économique, parce que voilà. Et quelque part, évidemment, la question difficile, c'est de savoir l'original. Qu'est-ce qui est l'original ? Mais est-ce que l'original, est-ce que l'idée d'original est intéressante en soi, vu qu'on parle de comportement humain ou de sensibilité dans ce qu'on veut. Et voilà, du coup, je me demandais si aussi dans des questions, voilà, comme le Parthénon, etc., pourquoi pas les Grecs pourraient réagir en disant, on fait une copie, on a le droit de faire une copie, vu que c'est, vous voulez la conserver, on en a marre, on va faire une copie, et puis on développe, je sais pas, un discours plus cool que ce qu'on peut trouver au British Museum. Je me demandais si c'était quelque chose qui est approché dans la muséologie, disons, c'est quelque part les grottes de Lascaux font école
Oui, quand même, hein. Il y a plusieurs initiatives qui vont dans ce sens-là. Effectivement, je crois que ça a d'ailleurs aussi été, dans le cas des marbres du Parthénon, ça a été une vraie question.
Et vice-versa, dans le sens que la Grèce pourrait avoir les originaux. C'est pas que je tiens absolument que le British
Museum. Non, bien sûr, mais c'est ça, en fait, je crois aussi l'enjeu. C'est que ce qui est un peu difficile, c'est qu'à la fois, je pense qu'on a les capacités techniques et technologiques pour produire des originaux presque parfaits, pour des copies presque parfaites des originaux. Mais là, derrière, quand même, demeure la question éthique, la question c'est pas uniquement une question de donner à voir ces objets, mais c'est aussi une question de à qui appartiennent ces objets. C'est cette question de propriété, elle est importante, je crois, aussi par rapport. Alors, ça dépend des situations. Hein, ça dépend des situations. Il y a des choses qui se résolvent de manière plus ou moins simple. Il y a notamment en Suisse, il y a eu ce conflit. Il y a eu un conflit sur la base d'un globe terrestre qui a été volé à Saint-Gall par Zurich. Donc, il y a eu des tractations entre deux cantons suisses. Donc, a priori, des gens qui sont voisins et qui ont plus les mêmes animosités qu'ils pouvaient avoir quelques siècles en arrière. Mais donc du coup c'est vraiment donc il y a eu des initiatives pour faire ça, et je crois que si on s'entend bien, c'est toujours possible de le faire, mais je crois que dans les questions de dynamique coloniale, particulièrement maintenant, Et peut-être que la Grèce pourrait entrer en matière pour avoir des copies et tout, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a aussi quand même là derrière la notion de fierté, la notion... Et en fait, en Europe, alors c'est pas partout comme ça dans le monde, hein, y a la question de l'authenticité, de l'originalité, je crois, elle est aussi discutée et comprise différemment en Asie, notamment en Chine ou au Japon, peut-être qu'aux États-Unis aussi, l'approche elle est un peu différente, mais à part peut-être pour des questions spéculatives, mais je crois aussi que en Europe on est très attaché en fait à la notion d'originalité, et puis ça fait que même si tu fais une copie de très grande qualité, c'est compliqué de dire qui garde quoi.
On pourrait continuer à en parler des heures, et puis j'espère qu'on a donné l'envie à qui nous écoute de se pencher là-dessus et aller visiter des musées et voir aussi un peu quel type de réflexion il y a derrière, comment les collections elles sont construites, d'où elles viennent, comment elles ont été faites. Et évidemment, sans vouloir rouvrir un chapitre, parce qu'on arrive à la fin de cette première émission, la question de l'authenticité et de l'original est peut-être centrale, parce qu'elle est liée ou intrinsèquement liée au musée, à la collection. Et je me demande si cette question-là aussi, en la questionnant, en fait, elle permettrait de changer les critères, en fait, de quelque part toucher à cette universalité ou cet universalisme tant fantasmé, que quelque part on l'a avec Internet, parce qu'on a le même décliné en 20 000 manières, et maintenant on rentre presque dans l'ère du fake. Donc,
oui, absolument. Ou même au-delà de la dimension technique et technologique de reproduire des objets à l'identique, on peut même, je pense qu'on s'approche de ça, de reproduire des choses de la réalité en réalité virtuelle par des dispositifs immersifs et des scénographies où tu peux entrer dans les choses. Ça te donne des nouvelles accessibilités. Hein, et là, on va encore peut-être dans un truc peut-être ailleurs, mais c'est le projet le Google Art Project que peut-être tu connais ça. C'est Google qui, en partenariat avec toute une série de musées, a numérisé en ultra haute définition des œuvres. Et ça permet, certes, de pas avoir, ça, tu n'as pas un accès direct à l'œuvre, mais tu as la capacité d'entrer dans un niveau de détail jusqu'à voir les craquelures de la peinture, etc. C'est des conditions de contemplation, si on peut le dire comme ça, qui sont beaucoup... qui sont, disons, des conditions que tu ne peux pas retrouver comme visiteur ou visiteuse au musée, que même probablement la plupart des professionnels qui travaillent dans le musée n'ont pas cette accessibilité à leurs propres œuvres, à moins de les décrocher, de les amener dans les labos pour faire des analyses, des zooms, etc. C'est vraiment l'occasion d'un accès hyper privilégié et précis à des œuvres. Et en fait, c'est peut-être aussi des questions qui vont plus loin. C'est de se dire, ok, bon, on a une c'est quoi la distance idéale, c'est quoi, à partir de quoi de quel moment tu vois vraiment l'œuvre. Est-ce que cette œuvre de Van Gogh, où je peux voir les craques de peinture, est-ce qu'elle me donne un accès plus important à l'original que si je vais vraiment voir le Van Gogh dans le musée? Ça, c'est vraiment aussi des questions, je crois, qui pourraient être un peu intéressantes.
Ouais, et ça me fait penser, je finirai là-dessus, sur... je connais peut-être le film, certains d'entre vous se souviennent du film Will Hunting, avec ouais. Matt Damon et Robbie Williams, où Matt Damon est ce surdoué qui connaît tous les livres, etc. Et puis Robbie Williams, quelque part le tackle, je ne sais pas comment on dit, en lui disant « Oui, mais tu connais tout de la chapelle Sixtine, mais tu ne connais pas l'odeur qu'il y a dedans. » Et que quelque part, il y a aussi cette question-là. Et je pense que c'est ça qui fait le sujet passionnant, c'est qu'à la fois, il y a la solution digitale. Quelque part, on s'accroche à l'authentique, on le décline, on le reproduit, on essaie de le rendre tangible le plus proche possible de ce qu'il est. Et de l'autre côté, il y a le fait de démultiplier la question de musée, et donc de donner peut-être l'importance à des choses qu'ils n'en ont pas. Mais quelque part, on sent l'odeur. Et on finira sur cette question. Merci Julien pour
merci à toi.
Avoir été avec nous. Et puis on se retrouve à l'épisode 2. Et alors,